بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous avons lu ce soir la sourate An-Nisa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Cette sourate est madaniya, c'est-à-dire qu'elle a été révélée à Al-Madina Al-Munawwara. Et il y a pas mal de hadiths, il y a pas mal de hadiths qui rappellent les versets importants. C'est pas les hadiths, c'est plutôt la vie de certains sahaba comme Ibn Mas'ud radiallahu anhu et Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui rappellent quelques versets clés de la sourate An-Nisa. L'ensemble de la sourate An-Nisa, comme tous les sourates du Coran, ce sont là donc des versets qui viennent d'Allah Azza wa Jal, remplis de sens. Mais particulièrement de la sourate An-Nisa, il y a 5 versets qui donnent énormément d'espoir aux croyants, des versets en rapport avec le maghfira, avec le pardon d'Allah Azza wa Jal. On commence par la version de Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il dit que dans la sourate An-Nisa, il y a 5 versets. لهن أحب إلي من الدنيا جميعا. Dit, je préfère ces 5 versets à l'ensemble des biens de ce monde. Il dit 5 versets de la sourate An-Nisa qui sont plus chers pour moi que l'ensemble des biens de ce monde. Et il a énuméré ces 5 versets. Premier verset, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal dit إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Un premier verset qui rappelle qu'Allah Azza wa Jal donc est capable de pardonner l'intégralité des péchés d'une personne à partir du moment où la personne ne commet pas les kabair, à partir du moment où la personne ne commet pas les péchés majeurs. L'autre verset, وإن تكو حسنة يضاعفها. Et lorsque le mu'min accomplit une hasana, une bonne action, Allah Azza wa Jal promet d'augmenter, d'amplifier la rétribution. Donc ça c'est le deuxième verset qui remplit le cœur d'espoir. J'ai fait une petite, enfin je n'ai pas le droit de dire, mais une bonne action qui ne paraît pas être exceptionnelle, mais Allah Azza wa Jal est tellement généreux qu'Allah va multiplier les récompenses de cette action au-delà de ce que je mérite normalement. Troisième verset cité par Ibn Mas'ud radiallahu anhu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Hadith clé, verset clé à propos du maghfira d'Allah Azza wa Jal, verset qui stipule que mis à part le shirk, mis à part le polythéisme, le fait d'associer d'autres Allah Azza wa Jal, ben Allah Rabbul Izza est capable de pardonner l'intégralité des péchés d'une personne, d'un croyant. Ça fait 3. Quatrième verset, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءٌ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يجد الله غفورا رحيما. Cet autre verset qui rappelle que si une personne commet des erreurs, si une personne a commis des péchés, ensuite ثم يستغفر الله, ensuite cette personne demande istighfar, demande pardon à Allah, ben يجد الله غفورا رحيما, il trouvera Allah Azza wa Jal pardonneur et clément. Donc 4 versets qui remplissent le cœur du croyant d'espoir, qui nous permet de réaliser qu'Allah Rabbul Izza est pardonneur miséricordieux. Et puis il y a un autre verset également. Là ensuite il y a la version d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Lui il a dit que 8 versets. Ibn Abbas radiallahu anhuma met en avant 8 versets, les versets qui ont été cités par Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et avec ça Ibn Abbas lui rajoute entre autres parmi les autres versets, يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ce verset rappelle comment est-ce qu'Allah Rabbul Izza veut la guider pour cette umma, veut que l'homme réussisse son parcours de ce monde et qu'Allah surtout veut وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, et qu'Allah veut pardonner aux musulmans, qu'Allah Azza wa Jal souhaite pardonner aux croyants. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il reste à faire? Faire les efforts donc pour lui demander pardon. Autre verset, Wallahu yuridu an yatuba alaykum, alors que wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Et cet autre verset compare ce qu'Allah veut pour nous, Wallahu yuridu an yatuba alaykum, qu'Allah veut nous accorder son pardon, alors que ceux qui suivent leur pulsion, leur passion, ben eux, ils veulent en fait que on se détourne tout simplement du droit chemin et qu'on finisse nous aussi par suivre les passions. Hada. Voilà donc quelques versets clés dans la sourate An-Nisa, cités par Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, radiallahu anhuma. La sourate An-Nisa commence par le rappel, « Ya ayyuhannas, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. » Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci, son épouse, et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Ibn Kathir, rahimahullah, rappelle, « Yaqulu ta'ala amiran khalqahu bitaqwa. » Ce verset commence par la taqwa Allah. Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme qu'il se doit d'éprouver la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et donc, وَعِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا, et de vouer un culte donc unique à Allah, c'est le seul qui mérite qu'on témoigne de la taqwa, la crainte de notre Seigneur. Et Allah Azza wa Jal rappelle sa qudra, son pouvoir. Qu'est-ce qu'Allah a fait ? عَلَى قُدْرَتِهِ, son pouvoir, par lequel il a créé l'ensemble de la race humaine à partir d'un homme, à partir d'un individu, c'est Adam alayhi salam. Ensuite, wa khalaqa min haza wajha, à partir de Adam, Allah azza wa jalla a créé Hawa alayhi salam. Et Hawa alayhi salam a été créé d'une côte de Adam alayhi salam alors qu'il dormait. Wa huwa na'im. Et il dormait où? Dans quel pays? À Mecca? À Medina? Dans le paradis. Adam alayhi salam était dans le Jannah. Fastayqadha fara'aha fa'ajabathu. Et lorsque Adam s'est réveillé, il a vu qu'Allah a créé une compagne, donc une épouse. Et il a vu Hawa et tout de suite, son cœur s'est pris d'amour pour Hawa et réciproquement, vice-versa, il y a eu les sentiments. Et alhamdulillah, ils ont vécu dans le paradis ensemble. Et c'est à partir de l'union de Adam et Hawa alayhi salam qu'Allah Rabbul Izza a, subhanallah, a créé l'ensemble de la race humaine. Donc ce verset commence en rappelant à l'homme la puissance d'Allah qui a donné vie à l'ensemble de la race humaine et que cette race humaine, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les origines, quelles que soient les ethnies, à la base viennent d'un seul être, d'un seul homme, c'est Adam alayhi salam. Petite parenthèse, les savants disent que, ça, on a l'habitude de le rappeler lors des discours sur le mariage, Adam alayhi salam était dans le Jannah. Est-ce que dans le paradis, normalement, on n'a pas tout ce qu'on désire? Toutes les conditions étaient réunies pour que Adam alayhi salam soit bien dans le paradis, mais l'homme ne peut éprouver un bonheur complet sans présence de sa compagne. Les ulama rahimahumullah rappellent donc que pour que l'homme connaisse l'épanouissement, l'apaisement du cœur, l'homme a besoin d'avoir à ses côtés une épouse qui va lui apporter la sakina, la tranquillité, et qui va apaiser donc le cœur de l'homme. Et de la même façon, la femme, même si elle a tout ce qu'elle veut en termes de biens financiers, matériels, ce que vous voulez, mais tant qu'elle ne trouve pas un homme vertueux, elle ne trouvera pas l'épanouissement tant sur le plan spirituel, sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique. Parce qu'Allah Azza wa Jal a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent, bien sûr avec les liens du mariage, on a bien compris, mais de cette façon, ils trouvent une certaine tranquillité. Et ça, c'est la sunnah d'Allah Azza wa Jal. Et on rappelle, hein, un homme et une femme. Il n'y a pas d'autre alternative possible. C'est comme ça que la création a démarré. Maintenant, quand certains prennent d'autres orientations en termes de sexualité, astaghfirullah, si ce n'était pas Adam et Hawa, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Que la race humaine existe, bi'idhnillah, par l'union d'un homme et une femme. Ça, c'est sunnatullah fil khalq. C'est de cette façon que la création d'Allah, elle s'est mise en marche, et de cette façon qu'Allah a créé l'ensemble de la race humaine. Le asbab, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Hada. Wa batha minhuma, on a expliqué déjà, rijalan kathira wa nisa'a, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang, certes Allah vous observe parfaitement. Ça, c'est un rappel important. Cette sourate
qui parle des femmes, cette sourate parle également des liens sur le plan familial. Et ça, c'est un point essentiel. En même temps, Allah Azza wa Jal rappelle « وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ » la crainte d'Allah. Mais également, Allah Rabbul Izza rappelle que nous devons craindre également la rupture des liens du sang. Donc, mise en garde contre les personnes qui vont rompre les relations avec leurs proches, avec les membres de la famille, ça, ça fait partie des choses qui sont interdites. Hey, wattaqul arham an taqta'uha. Ça, c'est le tafsir de Ibn Abbas. Attention, ne rompez surtout pas les liens de parenté, les liens avec vos proches. Walakin, mais bien au contraire, entretenez les liens wasiluha et agissez donc correctement avec vos proches. Parce que, inna Allah kana alaykum raqiba, c'est Allah vous observe parfaitement. Tout comme la personne qui a dans sa vie un manquement de l'adoration d'Allah, qu'il sache qu'Allah l'observe. Tout comme la personne qui agit mal avec les membres de sa famille, quelle que soit la raison, quelle que soit la raison, on se doit d'entretenir les meilleurs des liens possibles avec les proches, lillah, pour Allah Azza wa Jal. Parce que si on commence à analyser le comportement de chacun, le comportement de la tati, du coco, de la grand-mère, du tonton, et ainsi de suite, ça reste des êtres humains. Il n'y a pas un être humain avec qui on pourrait s'entendre du matin jusqu'au soir, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année. Ce n'est pas possible, ça. Donc, il est normal qu'il y a des fois où il y a une personne qui dit une petite parole, ah, ça m'a irrité un petit peu, ou il a eu un comportement, ah, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Mais est-ce qu'on va se focaliser sur ce décalage ou sur cette incompréhension pour se dire que, ah, il m'a dit telle chose ou il m'a regardé de travers, donc, je ne parle plus avec cette personne. Je ne m'assois plus à table avec lui. Ça, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton oncle, c'est ta tante. On se doit de passer sur ces incompréhensions, ces écarts de comportement, même s'il y a eu, pour Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah nous le rappelle dans la sourate An-Nisa. Attention, surtout, ne rompez pas les liens avec la famille. Ça, c'est essentiel. Même dans le cas où, imaginez une personne, mashallah, durant sa vie, accepte l'islam et que ses parents ne sont pas musulmans. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il va les violenter, les brusquer, les insulter parce qu'ils sont dans le shirk, le kufr, ou ils ne croient en aucun dieu? Du tout. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. » Bien sûr, ce qui concerne le shirk, la désobéissance envers Allah, ça on ne les obéit pas. Mais « Wa sahibuhuma fi dunya ma'roufa » Le verset ordonne aux croyants d'agir correctement avec eux, même s'ils n'ont pas la ilaha illallah de leur cœur. Ça reste ta maman, ça reste ton père, et ça, c'est les valeurs prônées par notre dîn. Voilà. Oui. Alors, donc, le fait que l'ensemble de la création des êtres humains vienne d'un homme, ben ça, c'est un lien qui unit l'ensemble des êtres humains. Et quand on parle d'humanisme, en arabe, on dit « insaniya », regardez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, a mis en avant ses valeurs, la solidarité, la fraternité, ce qu'on appelle l'humanisme avec un grand H. Une fois, il y a une délégation de Mudar, c'était des Arabes donc de Mudar, qui étaient venus à Al-Madina Al-Munawwara rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. C'était des personnes qui subhanallah vivaient dans des conditions de pauvreté extrême. Ils n'avaient quasiment pas de vêtements pour se couvrir correctement. Le prophète alayhi salatu wassalam a amené ces gens, je ne sais pas combien ils étaient, mais c'était un groupe, il les a amenés voir les croyants, les musulmans, et après la salat, le prophète alayhi salatu wassalam, après salat al-dhahr, il a fait un serment, il a dit que, oh, les musulmans, ya yuhannas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Le verset de la surat An-Nisa, commenté les savants, les muhadithin disent que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle à l'ensemble des gens qui sont ainsi là, que même si Mudar, c'est pas votre tribu, mais n'oubliez pas qu'à la base, il y a un lien. Nous sommes tous des fils de Adam alayhi salam. Et le prophète alayhi salatu wassalam va citer un deuxième verset pour inciter les sahaba à donner, à aider ces personnes qui sont dans la difficulté. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Attention, craignez Allah en ce sens et regardez, analysez qu'est-ce que vous avez préparé pour demain. Demain, c'est quoi? C'est demain après la mort pour le akhira. Qu'est-ce qu'on a préparé? De cette façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé aux croyants que nous sommes tous des frères d'une certaine façon. Et le prophète alayhi wa sallam rappelle également aux croyants que c'est dès maintenant qu'il faut préparer la vie de l'au-delà en venant, par exemple, en aide quand Allah nous ouvre une porte de khairat. Quand il y a une situation qui se présente devant nous où on a la possibilité de faire une bonne action, il faut le faire. Il ne faut pas se fermer les portes des bonnes œuvres. Quelqu'un, bien sûr, là c'était un cas clair et net, c'était des gens pauvres, mais on voit une personne en difficulté, on n'a pas à s'inventer des histoires que non, ben il va bénéficier des aides sociales, ou alors non, peut-être qu'il a de l'argent, mais il fait comme si... Non, vous avez la possibilité, on ne vous a pas dit de donner toutes vos économies non plus. Donnez un peu, vous pouvez donner 5 euros, donnez. Très souvent les gens ils hésitent, oui mais est-ce qu'ils méritent vraiment, ils ne méritent pas? Ça c'est un faux problème. Ça c'est un faux problème. Et ça très souvent c'est waswasa de Shaytan. Shaytan il met dans ta tête que non, il ne faut pas lui donner. Lui c'est, il va utiliser ça, il va acheter des crédits GSM, il va acheter n'importe quoi. C'est pas un pauvre vraiment. Il y a quelqu'un qui tend les mains, qui te dit que je suis dans une situation difficile. Ben, c'est une possibilité pour toi d'obtenir des hasanat en venant en aide à ton frère en islam. Ne ferme pas la porte. Donne ce que tu peux, même si ce n'est pas énorme. Fais-le pour Allah. Que la personne ait dit la vérité ou non, on l'a fait pour qui? On attend un retour de cette personne? C'est quand je lui donne 5 euros, je dis que je donne 5 euros, mais un jour, si tu me vois dans une situation difficile, tu me donnes aussi, hein, oublie pas moi, un jour, appelle demain. Non, quand on donne, c'est pour Allah. Et on attend quoi? On attend al-hajj dans la balance. On attend la récompense de la balance, on attend de voir cette hasana, cette récompense de le Jannah. C'est tout ce que nous souhaitons. Alors que la personne soit blanche, soit noire, soit de la Réunion, de Madagascar, de France, ou qu'il paraît comme s'il habillait comme ça, c'est un sabab, c'est un intermédiaire devant toi pour obtenir des récompenses. Pourquoi tu t'en prives? Pourquoi est-ce qu'on s'en prive? Maintenant, bien sûr, dans le cas où quelqu'un qui n'a pas iman, on sait que la personne à côté d'un boutique chinois, comme il dit, ou à côté d'un bar, et que bon, il demande aux Arabes, donne 2 euros, parce qu'il s'est acheté un pile plate. Là, bien sûr, c'est autre chose. On ne va pas financer son rhum charrette, bien sûr. Mais quand il s'agit d'un mu'min, on lui vient en aide, et ça, c'est sharaf. Et ça, on doit l'accepter comme un cadeau de la part d'Allah, qui nous donne la possibilité de faire une bonne action. Et si on se rend compte que 3 Ramadan, 4 Ramadan, 10 Ramadan s'enchaînent et j'ai rien donné dans le chemin d'Allah, il faut se poser un peu de questions là. Il faut se dire que bon, la sadaqa, ça fait partie des actions phares du mois de Ramadan. Comment ça se fait que je n'ai pas démarré encore? En fonction de nos moyens. J'ai beaucoup d'argent, je donne beaucoup. J'ai pas beaucoup d'argent, je donne un peu. Mais la personne qui n'a pas beaucoup de moyens et qui va donner 3 euros, 4 euros, peut-être pour Allah, ça a plus de valeur que celui qui donne 100 euros, alors que dans son compte, il a 350 000 euros. Parce que celui qui a donné 3 euros, 4 euros, cet argent-là, il aurait eu bien besoin, ça, pour acheter du pain pour ses enfants, pour acheter des trucs de la maison. Il dit, ça, je le fais pour Allah. Vous ne pouvez pas imaginer le contentement d'Allah, Azza wa Jal, par rapport à ce sacrifice. Allah a besoin de 3 euros? Est-ce qu'Allah a besoin de 5 euros? Le trésor d'Allah est limité. Qu'est-ce qu'Allah a donné à Qaroun, à ces personnes qui avaient les richesses? Allah n'a pas besoin de ça. Qaroun avait une richesse inestimable et il a été détruit avec toute sa richesse. Donc, cette richesse, qu'elle soit sur cette terre ou sous terre, ça ne change strictement rien pour notre robe. On est d'accord. Donc, c'est cet argent, Allah n'a pas besoin. Mais Allah veut voir la sincérité et le mujahada, l'effort qu'on est prêt à faire pour Allah. Craser ce nafs qui te fait croire que oui, mais 5 euros, tu peux avoir du pain pendant 5 jours quand même, c'est pas négligeable et tout. Et je dis, mais Allah, c'est lui le razzaq, c'est lui qui accorde la subsistance. Cette personne en difficulté, quand je donne, Allah m'accordera plus de baraka. Ça, c'est ce petit match qu'il y a entre mon iman et mon nafs. Il faut le gagner. Il faut le gagner parce que si on se ferme nous-mêmes une porte, ben, l'occasion ne se présentera plus. Ah, non. Ensuite, on ne va pas être trop long, 18 minutes, encore 2 minutes, Inch'Allah. Il y a une succession de versets où on retrouve un terme, yatim ou yatama. Yatim, c'est quoi? L'orphelin. Wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib. Et donnez aux orphelins leur bien, ni substituez pas le mauvais au bon, ne mangez pas leur bien avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Succession de versets de la Sourate An-Nisa qui parle des droits de l'orphelin. Et qui rappelle aux croyants que si vous avez accueilli un orphelin et que cet orphelin normalement a eu une part d'héritage de la part de son père qui est décédé, ben soyez honnête. Soyez honnête. Si ça c'est moi qui donne les explications, c'est pas la traduction. S'il y a une nécessité d'utiliser ses biens pour l'aider, pour le nourrir, pour ses vêtements, bien sûr, mais que l'homme, que le croyant reste honnête et ne mélange pas les biens de l'orphelin avec ses propres biens, parce que ce serait là une action détestable. Innahu kana huban kabira, c'est vraiment un grand péché. Donc les savants disent, voyez, les bases de l'honnêteté également et l'encouragement à venir en aide aux personnes qui ont perdu des proches, aux orphelins, ça c'est également enseigné dans la sourate An-Nisa. Nous voyons les valeurs de solidarité, de fraternité de notre din. Accueillir un orphelin, mashallah, c'est sharaf, c'est un grand honneur. Vous savez qu'il y a même des textes qui stipulent les récompenses qu'il y a à passer la main sur la tête d'un orphelin, à faire preuve d'amour pour un orphelin. Et que dire de dépenser dans le chemin d'Allah, donner ou subvenir aux besoins d'un orphelin, c'est là une grande action. Et rappelle que attention de ne pas abuser des biens qui ne nous appartiennent pas. Ce sont là les valeurs qui sont propres aux croyants. Et on termine avec, on aimerait ne pas terminer, mais il y a un point aussi qui est extrêmement important, c'est une réponse aux personnes qui pensent que dans l'islam, la femme n'a pas de droit, la femme n'existe pas, que l'islam est une religion, les musulmans sont misogynes, n'aiment pas les femmes, et ainsi de suite. Le verset لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Aux hommes revient une part de ceux qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, et aux femmes une part de ceux qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Ce verset rappelle que la femme a droit à l'héritage. Tout comme l'homme a droit à l'héritage, il n'y a aucune raison de priver la femme du miras, de l'héritage. On est à une époque où les polythéistes de Makkah avaient cette habitude d'accorder l'intégralité de l'héritage à une seule personne de la famille. Et bien sûr, femme et enfant, Mashallah, maintenant qu'ils nous reviennent de France, Alhamdulillah, Hayakumullah, de Lyon, Mashallah. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Alors que chez les Arabes, la femme n'avait pas droit à l'héritage. La femme, même si elle était issue d'une grande famille, d'une grande tribu, elle n'avait droit à rien du tout. Que ce soit son père qui meurt, son frère, son époux, son mari, l'argent allait à une autre personne, ainsi que les enfants. C'est-à-dire que si je meurs, si j'ai 5 enfants, mes enfants n'ont pas droit à l'héritage. C'est un système injuste et l'islam est venu pour rectifier ces injustices et ces incohérences qu'il y avait dans la société en donnant à la femme sa part de al-mirath, sa part d'héritage. Hada. Maintenant, bien sûr, on trouvera toujours des détracteurs qui disent que pourquoi donc la femme a droit à une part alors que l'homme a droit à deux parts. On doit bien comprendre qu'on est dans un système instauré par notre religion où toutes les dépenses de la maison, tout ce qui concerne le fonctionnement de la cellule familiale repose essentiellement sur l'homme. Et donc ce que la femme elle va avoir, c'est certainement la moitié. Par exemple, un frère, une sœur, ben la sœur aura moins que le frère. Mais l'argent qui rentre dans la poche de cette sœur, c'est moi qui rajoute, hein, c'est du tout bénéf pour elle. C'est pour elle, elle fait ce qu'elle veut. Alors que l'homme, lorsqu'il reçoit cet argent, est-ce qu'il va en jouir personnellement? Non, il a des responsabilités, il doit subvenir aux besoins de sa femme, aux besoins de ses enfants, la nourriture, tout ça c'est l'homme. Un mari n'a pas le droit de dire à sa femme, bon, ce mois-ci c'est un peu dur, je paye l'électricité, toi tu payes l'eau. Ou alors, le loyer c'est 700 euros, 350, sinon la porte est là-bas. C'est pas possible ça. Quand on a accepté cette femme dans notre mariage, on s'est engagé à subvenir à ses besoins, et c'est là le devoir du mari. Dans certains couples, je sais qu'il y a des maris qui exigent de leur épouse une participation dans les courses. C'est pas bien ça. Maintenant, les savants disent, quand ce sont des extras, d'accord, mis à part ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de la maison, maintenant, si elle veut acheter des trucs, un bouquet fleurs ou un truc, des trucs qui coûtent cher et qui sont accessoires, qui ne sont pas nécessaire au bon fonctionnement de la maison, là c'est autre chose. Mais ce qui est vital pour la famille, ça c'est le devoir du mari. Et par rapport à ces à ce devoir, on comprend mieux pourquoi est-ce que dans le partage de l'héritage, l'homme a une part supérieure parce que toutes les dépenses sont sur ses épaules, alors que la femme, elle n'a rien à donner, elle n'a pas à contribuer aux dépenses de la maison. Et on va conclure, faut bien terminer, avec un verset, puisque comme on est dans la sourate An-Nisa, un verset essentiel concernant la façon de se comporter avec sa femme, lorsqu'Allah Rabbul Izzah dit « Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf ». Si on pouvait retenir un verset, c'est là, c'est celui-là, « Et comportez-vous convenablement envers elle. » Et comportez-vous convenablement envers elle. Et ça, c'est un rappel pour ces maris qui passent leur temps à dénigrer la femme, qui dénigrent la vie de leur épouse dans les affaires, dans les mashwaras, dans les concertations, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait mashwara avec sa femme, il avait fait mashwara avec Khadija radiallahu anha, entre autres lorsqu'il a reçu le wahi, lors du refus d'accès à Makka, il a fait mashwara avec son épouse également concernant la façon de sortir de l'état des haram et de convaincre les sahaba. Donc ces personnes qui dénigrent leurs femmes et qui ne leur donnent pas le droit et le respect qu'elles méritent, ou qui parfois vont même jusqu'à des violences verbales, physiques, ben que ces personnes se retournent vers le verset « Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf » et qu'on retienne que le prophète alayhi salatu wassalam de son vivant n'a jamais insulté Khadija, ni Aïcha, ni une autre de ses épouses, ni frappé une de ses femmes, et que le comportement du prophète alayhi salatu wassalam envers sa femme et ses épouses qui se sont succédées était le comportement digne du croyant et exemplaire. Le prophète me dit que « Khiyarukum, khiyarukum li ahli wa ana » Les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui ont le meilleur des comportements avec leur famille. Et moi, c'est-à-dire prophète d'Allah, j'ai le meilleur comportement avec ma famille. Donc comprenez que prenez exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez exemple sur la façon qu'il agissait avec sa femme. C'est là où uswatun hasana. On est prêt à mettre tous les sunnats en pratique. On aime bien, mais on doit mettre cette sunnah également en pratique. Voir comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam agissait avec sa femme Aïcha radiallahu anha. Elle raconte qu'à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam quittait la maison pour aller accomplir la salat, donc à la masjid Nabawi, le prophète sallallahu alayhi wasallam l'embrassait avant de quitter la maison. C'est des petits gestes au quotidien qui nous rappellent que la manifestation de muhabba, elle doit être présente tout le temps. C'est pas un truc idyllique, c'est un Saint-Valentin ou je sais pas, un truc comme ça. Non, c'est au quotidien, le mari se doit d'avoir le meilleur des comportements avec sa femme et de manifester ce muhabba au quotidien. Et donc la sourate An-Nisa, un des grands sourates du Coran, qui nécessite qu'un jour on s'y penche un peu plus et nous voyons comment est-ce qu'Allah Rabbul Izzah a honoré les croyantes. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah nous donne les qualités pour ceux qui sont mariés. Qu'Allah nous accorde les sifat du mari vertueux comme le prophète Ali salatu wassalam agissait correctement avec ses épouses vertueuses. Et ceux qui ne sont pas encore mariés et qui sont en âge de se marier, qui sont à la recherche d'une épouse vertueuse, nous demandons à notre Rabb, durant ce mois béni, de leur accorder l'épouse vertueuse et d'exaucer leurs demandes qui vont de ce sens, et que les couples qui sont déjà formés et qui parfois connaissent des difficultés, parce que ce sont là les aléas de la vie, qu'Allah Azza wa Jal enlève toute jalousie, l'orgueil, la fierté du cœur de l'homme et de la femme, afin qu'ils retrouvent le véritable muhabba, le véritable amour, et qu'Allah nous accorde sa protection. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alamin.